Épître aux Romains. Structure de l'Épître aux Romains. Dans la première partie, chapitre 1 au verset 11 du chapitre 5, il est question de la justice de Dieu. Dans la deuxième partie, du verset 12 du chapitre 5 au chapitre 8, il est question de Christ, chef d'une nouvelle race, et les bénédictions de ceux qui sont en Christ. Dans la troisième partie, du chapitre 9 au chapitre 11, il est question des voies dispensationnelles de Dieu. Dans la quatrième partie, du chapitre 12 au verset 13 du chapitre 15, il est question des exhortations pratiques. Dans la cinquième partie, du verset 14 du chapitre 15 à la fin, il est question des appels et des salutations personnelles de l'apôtre. Chapitre 1. Du verset 1 au verset 17, nous avons l'introduction de l'Épître. Versets 1 à 7. Citation de l'Écriture. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'Évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes Écritures, touchant son Fils, né de la semence de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquelles vous aussi, vous êtes des appelés de Jésus-Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Les sept premiers versets de l'Épître donnent les titres de créance de l'apôtre, le grand sujet de l'Épître et les salutations apostoliques aux saints à Rome. Non seulement Paul était esclave de Jésus-Christ, comme beaucoup d'autres, mais il avait été établi apôtre par un appel spécial. Son service ou ministère, avait donc le caractère apostolique, celui de quelqu'un envoyé spécialement pour annoncer la bonne nouvelle ou évangile. Le grand sujet de cette épître est l'évangile de Dieu touchant son Fils. C'est une caractéristique de cette épître que chaque vérité remonte à Dieu et est considérée en rapport avec Dieu. Ainsi, dans ce chapitre, nous avons l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la colère de Dieu, la vérité de Dieu et le jugement de Dieu. Plus loin, on trouve la bonté de Dieu, les oracles de Dieu, la gloire de Dieu, la patience de Dieu et l'amour de Dieu. Le fait que Dieu s'approche d'un monde coupable avec une bonne nouvelle, Évangile signifie « bonne nouvelle », montre la disposition de Dieu envers ses créatures déchues. Cela prouve en effet que Dieu est amour, et qu'il est un Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Verset 2. L'Évangile annoncé par Paul est confirmé par les saintes Écritures. Promis par les prophètes de Dieu d'autrefois, il est maintenant proclamé par les serviteurs de Dieu en ce jour de grâce. Lorsqu'il est proclamé, il a l'autorité de la promesse des saintes Écritures, que, par ailleurs, il confirme. C'est pourquoi l'apôtre fait constamment appel à l'Écriture dans la prédication de l'Évangile. Voir Actes 13, versets 27 et 47, Actes 17, versets 2 et 11, etc. Versets 3 et 4. L'apôtre présente ensuite de manière très bénie le grand sujet de l'Évangile. L'Évangile de Dieu est « touchant son Fils ». Ce n'est pas nous qui en sommes le sujet. Il ne peut pas y avoir de bonnes nouvelles concernant l'homme déchu comme tel. Les bonnes nouvelles sont certes pour les hommes, mais elles sont au sujet du Fils de Dieu. L'apôtre présente ensuite un beau tableau des quadruples gloires de Christ. Il est important de noter l'ordre dans lequel ces gloires sont présentées, un ordre qui est plutôt obscurci par la version anglaise King James, dans laquelle Jésus-Christ notre Seigneur est placé en second après son Fils, au verset 3, alors que ces mots doivent venir à la fin du verset 4. Premièrement, donc, Christ est présenté comme le Fils, ce qui parle de sa personnalité divine et éternelle, qui n'a été modifiée par rien de ce qu'il est devenu. Deuxièmement, Christ est présenté dans son incarnation, né de la semence de David selon la chair. Ceci ne parle pas de sa gloire personnelle intrinsèque, mais de ce qu'il est devenu comme homme parfait. Il était le Fils avant de naître de la semence de David. Il n'est pas devenu le Fils par l'incarnation. Troisièmement, étant devenu chair, la gloire de sa personne est soigneusement préservée par le fait que, dans son humanité, il est différencié de tous les autres comme étant le Fils de Dieu en puissance divine, selon l'esprit de sainteté par la résurrection. Quand il est fait référence à la résurrection, il s'agit non seulement de sa propre résurrection, comme l'insertion à tort de l'article « là » pourrait l'impliquer, c'est le fait de l'exercice de la grande puissance de résurrection, soit dans le cas de Lazare et d'autres, soit dans celui de sa propre résurrection, qui le détermine comme une personne divine. La puissance de l'homme se voit dans la conception d'engins de guerre complexes pour faire mourir les gens, mais toute l'intelligence de l'homme n'a jamais été en mesure de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Dieu seul peut ressusciter des morts. En outre, cette déclaration de la puissance divine était selon l'esprit de sainteté. C'était pour répondre aux exigences de la sainteté que le Seigneur Jésus est venu pour souffrir sur la croix. Mais si la sainteté exigeait l'œuvre de la croix, la sainteté exigeait également que la gloire de celui qui s'est abaissé pour accomplir cette œuvre soit déclarée par la résurrection. Quatrièmement, Christ est reconnu comme étant Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceux qui croient le témoignage de Dieu à son sujet se mettent avec grand plaisir sous sa domination en le reconnaissant comme leur Seigneur et Maître. Verset 5. Voilà donc Christ, la glorieuse personne que Paul venait présenter. Christ avait quitté le monde, mais Paul était envoyé comme apôtre pour représenter Christ. Il venait pour son nom. Afin d'être un bon représentant, il avait reçu de Christ grâce et apostolat. Non seulement l'apostolat, mais aussi la grâce nécessaire pour exercer l'apostolat. Il n'a pas reçu sa mission de la part de l'homme, ni par une formation humaine, ni par ordination. En outre, s'il venait en représentant de Christ, pour son nom, c'était afin d'amener les hommes à se soumettre à Christ, de les amener sous la domination de Christ pour qu'ils lui obéissent. Seuls ceux qui croient se soumettraient. C'est pourquoi il est parlé de l'obéissance de la foi. Cet apostolat devait être exercé parmi toutes les nations. Ainsi, si l'Évangile est au sujet de son Fils Jésus-Christ, il est pour toutes les nations. Il n'est plus question d'une nation favorisée, les Juifs. La bénédiction de l'Évangile est pour tous. Versets 6 et 7. Parmi les nations, les Romains avaient une place prééminente, et d'entre cette nation, il y avait les appelés de Jésus-Christ. À tous ceux qui étaient tels à Rome, Paul envoie cette épître avec les salutations. Il leur rappelle qu'ils sont les appelés de Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, et par le fait de leur appel, ils étaient constitués saints. Versets 8 à 13. Citation de l'Écriture. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Car Dieu, que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières, si en quelque manière, maintenant une fois, il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous. Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle, pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble, au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. » Fin de citation. N'ayant encore jamais vu les saints à Rome, il était nécessaire qu'il commence par parler de lui-même avec plus de détails que d'habitude dans ses épîtres. Ayant pleinement présenté ce qui l'accréditait, ses pensées se tournent vers ceux à qui il écrivait, l'amenant à parler de son affection fraternelle pour tous les saints. Il y avait dans son service spécial et dans sa position apostolique ce qui le poussait à écrire aux saints à Rome, mais il y avait aussi, chez les saints eux-mêmes, ce qui attirait ses affections vers eux. Ce qu'on lui avait rapporté de leur foi avait touché l'apôtre en faisant monter la louange de son cœur à Dieu. En outre, non seulement ils louaient Dieu à cause de leur foi, mais ils priaient aussi Dieu sans cesse en raison de leurs besoins. Comme quelqu'un l'a dit, la foi la plus sincère n'a jamais dépassé le besoin de secours. D'ailleurs, ceux pour lesquels nous pouvons à la fois louer et prier sont ceux que nous désirons voir. Ainsi l'apôtre dit « Je désire ardemment de vous voir ». Verset 11. Le motif de son désir est de pouvoir leur communiquer quelques dons spirituels afin qu'ils soient bien affermis. Ceci amène devant nous le grand but de l'Épître aux Romains, l'affermissement du croyant dans ses relations personnelles avec Dieu. Son but, en leur écrivant, et son désir de les voir, n'était pas seulement de remplir sa mission apostolique ou d'exercer son autorité apostolique, mais c'était d'épancher son affection fraternelle qui soupirait après eux et qui comptait en recevoir de la consolation tout en leur communiquant de la bénédiction spirituelle. L'apôtre s'était souvent proposé de les visiter, mais il en avait été empêché. N'était-ce pas la grâce et la sagesse de Dieu de permettre un obstacle dont l'effet a été de lui faire écrire une épître pour la bénédiction du peuple de Dieu dans tous les âges? Il est bon pour nous de voir la main de Dieu dans ce qu'il empêche comme dans ce qu'il permet, et d'accepter avec soumission les portes qu'il ferme, comme aussi de franchir celles qu'il ouvre. Versets 14 à 16. Citation de l'Écriture. Je suis débiteur et envers les Grecs, et envers les barbares, et envers les sages, et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Fin de citation. Dans les versets suivants, l'apôtre parle du devoir qu'il a de prêcher et dont il est prêt à s'acquitter. Non seulement l'apôtre était désireux de voir ses frères et de leur communiquer quelques dons spirituels, mais il se sentait comme ayant une dette à payer. Très heureusement, il peut dire « Je suis débiteur envers ceux qui ne sont pas juifs, je suis tout prêt à prêcher et je n'ai pas honte de l'Évangile. Je suis débiteur » est le langage de quelqu'un qui a trouvé dans l'Évangile ce qui répond à ses propres besoins et qui ressent le devoir d'annoncer l'Évangile à d'autres qui sont dans le besoin, que ce soit des Grecs cultivés ou des barbares inintelligents. « Je suis prêt » est le langage de quelqu'un qui est dans le bon état moral pour prêcher. « Je n'ai pas honte » est le langage de quelqu'un qui, réalisant la grandeur de l'Évangile, est hardi pour le proclamer. Ces choses étaient vraies de l'apôtre dans un sens spécial, comme envoyé aux nations, mais elles devraient être aussi vraies dans une mesure de tout croyant. La joie de l'Évangile devrait nous rendre débiteurs pour proclamer l'Évangile. Un bon état moral d'âme devrait nous rendre prêts à prêcher. Et le sentiment de la grandeur de l'Évangile devrait nous garder d'avoir honte de parler à d'autres de l'Évangile. Versets 16 et 17. Citation de l'Écriture. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». Fin de citation. L'apôtre termine l'introduction de l'épître par un beau condensé de l'Évangile, montrant ainsi pourquoi il n'en a pas honte. Premièrement, il est la puissance de Dieu en salut. Dieu en est la source. Ce n'est pas l'homme qui vient à Dieu avec ses œuvres, mais Dieu qui s'approche de l'homme avec le salut. Nous pouvons comprendre la puissance de Dieu pour juger un pécheur coupable, mais la merveille de l'Évangile est qu'il révèle la puissance de Dieu pour sauver un pécheur qui mérite d'être jugé. Deuxièmement, il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, aux Juifs premièrement et aux non-Juifs. L'homme vient à la bénédiction de l'Évangile par la foi, et y avoir part par la foi était précisément le moyen d'y avoir part sans y ajouter quoi que ce soit, le moyen de le laisser être tout entier le salut de Dieu. Citation de Darby. Troisièmement, il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, parce que la justice de Dieu y est révélée. S'il n'y avait aucun moyen pour l'homme d'être sauvé en respectant la justice, il ne pourrait y avoir aucun salut pour lui. Il est évident que tout ce que Dieu fait doit être avec justice. Dans l'Évangile, Dieu se révèle comme agissant avec justice et par conséquent avec puissance pour sauver. Il est vrai que, dans l'Évangile, nous voyons la révélation de l'amour et de la grâce et de la miséricorde de Dieu, mais l'apôtre ne parle pas de ces qualités bénies dans ce passage, mais seulement de la justice de Dieu. C'est ce qui va être le grand sujet de la première partie de l'Épître. Le but de l'apôtre, en écrivant l'Épître, était de bien affermir le croyant, comme nous l'avons vu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre insiste sur la justice de Dieu. Le pécheur ne craint pas l'amour, ni la grâce, ni la miséricorde de Dieu, mais il craint que la justice de Dieu soit contre lui. Le pécheur coupable sent que si Dieu connaît tous ses péchés et agit en justice à son égard, selon ce que ses péchés méritent, il doit être puni. Mais s'il peut être dit au pécheur que la qualité de Dieu qu'il redoute le plus, à savoir sa justice, est justement la qualité qui est en sa faveur, et non pas contre lui, cela va vraiment être une bonne nouvelle pour lui, et un grand pas en avant aura été fait pour gagner le pécheur et affermir le croyant. Quatrièmement, la manière dont la justice de Dieu est révélée est sur le principe de la foi. Elle n'est pas révélée de manière à être visible, ni en raison d'aucune œuvre faite par les hommes. Si la justice est révélée sur le principe de la foi, ce ne peut être qu'à ceux qui ont la foi. L'Écriture rend témoignage de cette vérité par le prophète Habacuc lorsqu'il dit « Or le juste vivra de foi » Habacuc 2, verset 4. Du verset 18 du chapitre 1 au verset 20 du chapitre 3, il est question du procès de l'homme et de son état dévoilé. Les versets d'introduction nous ont appris que le grand but de l'Épître est de bien affermir les croyants dans leur relation personnelle avec Dieu. « Pour que vous soyez affermis, dit l'apôtre au verset 11. » Pour y parvenir, l'apôtre montre que l'Évangile est la puissance de Dieu en salut parce que la justice de Dieu y est révélée. Rien n'affermira autant le croyant que la découverte que Dieu ne sauve pas seulement le pécheur qui croit en Jésus, mais qu'il le fait avec justice, c'est-à-dire en cohérence avec sa propre nature sainte. Cependant, avant de commencer à montrer comment Dieu peut justifier avec justice le pécheur qui croit en Jésus, il était nécessaire de faire ressortir le besoin de cette justice en montrant que l'homme n'a aucune justice propre. L'apôtre le fait en démontrant que l'homme s'est ruiné lui-même et qu'il ne peut rien faire pour se sauver de son état de ruine. Pour que quelqu'un soit sauvé, cela doit donc entièrement dépendre de ce que Dieu fait pour l'homme et non pas de ce que l'homme fait pour Dieu. Ce que Dieu fait doit être avec justice. C'est pourquoi le salut de l'homme dépend entièrement de Dieu agissant avec justice à l'égard de l'homme. Ainsi, le grand but de cette section importante de l'Épître est de démontrer que l'homme n'a aucune justice devant Dieu. Pour le démontrer, l'apôtre survole l'histoire de l'homme et montre que l'homme a été testé dans toutes les conditions imaginables, avec comme résultat qu'à chaque test, l'homme a complètement failli. Lorsque celui-ci a été mis en position de responsabilité, il a entièrement manqué à s'acquitter de ses responsabilités. Il n'a pas agi justement envers Dieu ni envers son prochain. Il s'est avéré impie et injuste. Verset 18. Citation de l'Écriture. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Fin de citation. Le verset 18 est une déclaration générale qui s'applique à l'ensemble de la section. C'est un acte d'accusation contre tous les hommes et dont les preuves sont fournies en détail du verset 19 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Les hommes sont démontrés impies et injustes. L'impiété est le mépris avec lequel les hommes traitent les témoignages que Dieu a donnés de lui-même. L'iniquité se réfère à leurs pratiques mauvaises. En outre, il est prouvé que les hommes possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Les païens, les moralistes et les juifs, tous ont eu quelques mesures de vérité, mais ils s'en sont servis à de mauvaises fins. Les païens ont tourné la lumière de la création en une occasion d'idolâtrie. Les juifs se sont servis de la loi pour se glorifier. Hélas, le même principe est à l'œuvre dans la chrétienté. L'amour de Dieu est utilisé pour nier la sainteté de Dieu. La vérité est alléguée pour maintenir l'erreur. La colère de Dieu est alors révélée contre tout ce mal que les mises à l'épreuve de l'homme ont révélé. Si la croix démontre la justice de Dieu pour sauver le pécheur qui croit, elle démontre aussi la colère de Dieu contre le péché. C'est la colère de Dieu révélée du ciel, et elle l'est contre toute impiété et toute iniquité. Au jour de l'Ancien Testament, la colère de Dieu était révélée dans des jugements gouvernementaux infligés à certains individus ou certaines nations à cause de péchés commis à l'encontre de la lumière partielle qu'ils possédaient. Maintenant, la colère ne s'exprime plus de manière limitée en rapport avec ce qu'est l'homme sur la terre, mais elle est révélée selon la sainte nature de Dieu dans le ciel et contre tout péché où qu'il se trouve. Si dans l'Évangile il y a une pleine manifestation de la justice de Dieu qui peut sauver, il y a en même temps la révélation de la colère de Dieu contre le péché. La justice de Dieu en salut ne met nullement de côté la colère de Dieu contre le péché. Au contraire, la révélation de la puissance de Dieu qui peut sauver le plus grand pécheur en restant juste devient l'occasion de déclarer pleinement la colère de Dieu contre tout péché. De notre côté, nous pouvons supporter la pleine révélation de la colère de Dieu contre les péchés dans la mesure où nous savons que le pardon des péchés est accordé en justice vis-à-vis de Dieu. La colère n'est pas encore exécutée car Dieu agit en grâce, mais elle est révélée. Après cet acte d'accusation générale, l'apôtre passe à la démonstration de sa véracité en passant successivement en revue d'abord l'histoire des païens, versets 19 à 32, puis les voix des moralistes, chapitre 2, versets 1 à 16, et enfin l'histoire des juifs, chapitre 2, versets 17 jusqu'au verset 18 du chapitre 3. Cette section de l'épître s'achève finalement par un résumé solennel de la condition de l'homme qui prouve que le monde entier est sous le péché et exposé au jugement de Dieu. Chapitre 3, versets 19 à 20. Versets 19 à 32, où il s'agit des païens. Passant de l'accusation générale de l'homme au détail de son histoire, l'apôtre aborde d'abord les païens qui n'avaient pas de révélation directe de la part de Dieu. Ils n'avaient cependant pas été laissés sans témoignage de la part de Dieu. Leur responsabilité avait un triple caractère. Ils avaient la création qui rendait témoignage de Dieu, versets 19 et 20. Ils avaient une certaine connaissance de Dieu, versets 21 à 31. Ils avaient une conscience qui leur disait qu'ils n'agissaient pas selon leur connaissance de Dieu, verset 32. Dans les versets 19 et 20, il s'agit du témoignage de la création. Citation de l'Écriture. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Fin de citation. Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Verset 20. Ayant la pleine lumière de la révélation, qui rejette dans l'ombre tout autre témoignage, nous sommes en danger d'oublier combien grand est le témoignage rendu à Dieu par le moyen de la création. Hélas, les hommes montrent leur impiété en jetant du mépris sur tout témoignage rendu à Dieu. Par l'évolution, ils cherchent à expliquer la création par ce qu'ils considèrent comme des lois naturelles, et ils voudraient ainsi éliminer tout témoignage rendu à Dieu par la création. L'homme moderne voudrait nous dérober toute connaissance de Dieu en nous laissant sans révélation de la part de Dieu. Malgré l'incrédulité du cœur de l'homme, qui se trahit tant dans l'évolution que dans d'autres idées modernes, la création demeure, et le psalmiste déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Psaume 19, verset 1. Tandis que la création dans toutes ses parties manifeste la puissance éternelle et la divinité de Dieu, il est hautement significatif que l'écrivain inspiré du psaume 19 parle de parties de la création que l'homme n'est pas en mesure de toucher ou de corrompre. Il parle de la succession permanente du jour et de la nuit et du circuit perpétuel du soleil. Selon l'estimation de Dieu, c'est là un témoignage si puissant et si convaincant rendu à sa puissance et à sa divinité qu'il laisse l'homme sans excuse. Il n'est pas suggéré que la création rende témoignage à l'Évangile, ni qu'elle révèle Dieu selon sa nature, mais elle rend témoignage au Créateur, et l'homme s'est détourné du Créateur, au lieu de se tourner vers le Créateur à partir de ce témoin. Les hommes ont donc clairement montré n'avoir aucun désir de Dieu, et c'est le cas des scientifiques incrédules d'aujourd'hui. Évidemment, si l'homme ne veut pas de Dieu, il ne voudra pas non plus de l'Évangile de Dieu. Le rejet du témoignage de la création laisse l'homme sans excuse, même s'il n'a pas entendu l'Évangile. Dans les versets 21 à 23, il s'agit de la lumière de la connaissance de Dieu. Citation de l'Écriture. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. Fin de citation. En plus du témoignage de la création, les hommes ont eu dès le début de l'histoire une certaine connaissance de Dieu. C'est ce à quoi l'apôtre fait référence quand il dit « ayant connu Dieu ». Le monde d'avant le déluge a commencé avec une connaissance de Dieu, et c'est à ce monde qu'Énoch a prophétisé et que Noé a prêché, de sorte qu'il n'a pas été laissé sans témoignage de la part de Dieu. Cependant, comme l'apôtre fait référence à l'idolâtrie, il est probable qu'il a surtout en vue le monde actuel issu de Noé et de sa famille. Le premier acte de ce monde actuel a été de bâtir un autel à l'Éternel, ce qui montre clairement que ce monde actuel a commencé avec une certaine connaissance de Dieu. Il venait juste d'apprendre par le jugement solennel du déluge que Dieu n'était pas indifférent aux voies de l'homme et qu'il ne voudrait pas poursuivre indéfiniment avec la violence et la corruption. Ils savaient ainsi qu'ils avaient affaire à un Dieu vis-à-vis duquel l'homme est responsable. Cette connaissance de Dieu aurait dû conduire les hommes à glorifier Dieu pour toute sa puissance et sa sagesse dans la création, et à lui rendre grâce pour toutes ses riches dispositions pour la bénédiction de l'homme. Cependant, l'homme déchu a peur de Dieu et le hait, que ce soit avant ou après le déluge. Les hommes peuvent en effet être contraints d'admettre l'existence d'une grande cause première, car ils savent que toutes leurs belles théories n'expliqueront jamais l'origine ultime de la création. Mais dans leur folle envie d'oublier Dieu, ils s'efforcent, comme on l'a dit, de cacher Dieu derrière ses œuvres plutôt que de le découvrir en elles. Ne glorifiant pas Dieu dans ses œuvres, ni ne lui rendant grâce pour ses miséricordes temporelles, ils ont perdu la connaissance de Dieu qu'ils possédaient. Refusant le témoignage de la création, ils sont retombés, comme les hommes d'aujourd'hui, sur leur propre imagination. Ainsi, leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la connaissance de Dieu. Les ténèbres morales sont toujours dans l'Écriture l'ignorance de Dieu, tandis que la lumière est la connaissance de Dieu. Plus ils sont devenus fous, plus ils ont professé être sages, et plus ils ont professé être sages, plus leur folie s'est encore accrue. Cependant, l'homme ne se suffit pas à lui-même. Il lui faut quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un à qui regarder dans sa misère et sa faiblesse. Ayant donc rejeté le vrai Dieu, et étant devenu fou, il s'est mis à façonner des faux dieux à sa guise. Les goûts des hommes étant variés, les hommes ont inventé des dieux en grand nombre pour satisfaire tous leurs penchants. Ils ont commencé par représenter Dieu sous l'image d'hommes corruptibles, puis, sombrant plus bas dans leurs idées sur Dieu, ils l'ont imaginé semblable à des oiseaux ou des quadrupèdes, jusqu'à atteindre les plus bas fonds de la dégradation en représentant Dieu sous forme de reptiles, de serpents. Le culte du serpent a prouvé à quel point l'homme avait entièrement déchu de Dieu au diable. Versets 24 à 27. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Fin de citation. Le résultat épouvantable nous est présenté dans ces versets. L'homme ayant abandonné Dieu, il est maintenant répété trois fois « Dieu les a livrés » au verset 24, 26 et 28. Il est selon le gouvernement de Dieu que ce qu'un homme sème, cela il le moissonne. Leur convoitise les avait détournés du vrai Dieu. Maintenant, les faux dieux qu'ils avaient établis à leur goût ont cautionné et encouragé leur convoitise. Dieu les livrant en leur convoitise, ils se sont mis immédiatement à déshonorer leur propre corps, comme aussi ils avaient déjà déshonoré Dieu. Ayant changé la vérité de Dieu en mensonge et mis la créature à la place du Créateur en tant qu'objet de culte, il a été permis qu'ils tombent en dessous des créatures qu'ils adoraient. Les hommes ont sombré au-dessous des bêtes. On a dit, à juste titre, qu'une bête n'est pas une créature morale, elle est amorale. Mais un homme dégradé au niveau d'une bête devient immoral. Ses affections deviennent corrompues et perverties, laissant leur cours naturel poursuivre ce qui est contre nature. Versets 28 à 31. Citation de l'Écriture. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer les choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde. Fin de citation. Ces versets décrivent la condition du monde païen avec un tableau terrible de ses abominations. La situation décrite par cette liste de crimes remonte à une seule et même racine. Quand les hommes avaient une certaine connaissance de Dieu, ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Puis, les hommes ayant délibérément abandonné la lumière que Dieu avait donnée de lui-même, il en est résulté que l'homme a été livré à un esprit réprouvé et a été abandonné à ses pensées dépravées. L'effet terrible du péché est de laisser les hommes avec des corps souillés, verset 24, des affections dégradées, verset 26, et des esprits dépravés, verset 28. L'homme est déchu, corps, âme et esprit. L'Écriture montre aussi clairement que l'état final de la chrétienté sera tel qu'il ne peut être décrit qu'en des termes presque similaires à ceux de cette liste de vices de Romains 1. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre montre que l'état de la chrétienté sombrera au niveau du paganisme. Et la même racine produisant les mêmes fruits, l'apôtre dit en 2 Timothée 4, verset 4, au sujet des chrétiens professant de ces derniers jours fâcheux, « Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Dans les premiers jours de l'histoire du monde, les hommes avaient une certaine mesure de la connaissance de Dieu, suffisante pour les laisser sans excuse. Ils abandonnèrent délibérément cette connaissance de Dieu. Ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Alors ils sombrèrent en dessous des bêtes. De nos jours, nous avons la pleine connaissance de Dieu. Il habitait autrefois dans l'obscurité, mais il est maintenant venu en pleine lumière. Dans la personne du Fils, Dieu a été pleinement révélé. Nous constatons de nouveau que les hommes détournent leurs oreilles de la vérité et se tournent vers les fables. La chrétienté, comme les hommes d'autrefois, ne juge pas bon d'avoir la connaissance de Dieu. Il y a cependant cette différence solennelle que, dans les jours d'autrefois, les hommes se sont détournés d'une connaissance partielle de Dieu, tandis qu'aujourd'hui les hommes se détournent de la pleine connaissance de Dieu dans le christianisme. Le résultat sera d'autant plus épouvantable. Notre seule sécurité est de veiller à garder la connaissance de Dieu selon la lumière dans laquelle il s'est révélé lui-même en Christ. Verset 32. Il s'agit du témoignage de la conscience. Citation de l'Écriture. Et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Fin de citation. Nous apprenons finalement que l'homme a eu dès le commencement le témoignage de la conscience en lui. Il a su et sait encore que les péchés qu'il aime et qu'il commet sont mal et qu'un châtiment s'ensuivra. Il a refusé et refuse encore le témoignage de la création. Il n'a pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. Pareillement, il a négligé et néglige la voie de la conscience. Ainsi, le monde païen s'est avéré être un monde en ruine, sans aucune excuse pour sa méchanceté et sans justice devant Dieu.